gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité aurait pu devenir un chanteur lyrique puisqu'il a reçu une formation à l'École de l'Opéra auprès de véritables légendes, Louis Quillico et Joseph Rouleau. Mais la poésie et les textes des grands chansonniers ont toujours exercé, au gré du temps, un attrait irrésistible chez lui. Aujourd'hui, il se sent en parfaite harmonie avec sa guitare et les chansons de ses grands auteurs dont il se fait l'interprète. Avec nous, avec grand plaisir, Claude Michaud, bonjour.
Bonjour, Armand.
La poésie, donc, a pris tout cet espace au sein de votre cœur chantant?
Oui, ça a pris tout l'espace. Ça a toujours été. Il y a eu un long intermède où, comme vous le disiez, je suis allé me former auprès de sommités vocales et dans le monde de l'opéra.
Et pas les moindres.
Et je dois dire aussi que ça m'a quand même bien servi, parce que maintenant que je suis revenu à mon essence, finalement, la chanson poétique, pour moi, l'aspect technique, l'aspect vocal, c'est comme quelque chose qui est complètement intégré.
D'où vient ce désir de chanter? D'abord, vous êtes originaire du Saguenay.
Eh oui.
Pourquoi ce bien oui?
Eh oui, du Saguenay, comme quelques autres...
Oui, c'est vrai. La diaspora saguenayenne...
Oui, la diaspora saguenayenne est assez large. Oui, tout à fait.
Alors, une enfance où vous avez baigné quand même entouré de ce milieu culturel parce que votre papa avait un rôle quand même assez important dans la région.
Oui, outre le fait qu'il était un des fondateurs de la télévision, je dirais la télévision d'État, affiliée à Radio-Canada, à Jonquière, à CKRS évidemment, qui diffusait surtout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Et d'ailleurs, il a fait toute sa carrière, il y a passé quelque chose comme 36 ou 37 ans. Avant de faire ça, et même pendant qu'il faisait ça, dans les années, à la fin des années 50, il était comme directeur de tournée pour les artistes français et québécois qui venaient au Saguenay. C'est pour ça que j'ai dans les archives des photographies de lui avec les Piaf, les Trenet, les Brel, Félix Leclerc, Léo Ferré, Monique Lérac, tout ce beau monde-là. Et puis, pour lui, il était amoureux aussi de la chanson et des artistes. Et puis, lui, il n'a eu aucune éducation musicale, en fait. Aucune éducation, c'est un homme qui s'est fait lui-même et qui a fort bien réussi dans
Mais
la
qui
vie.
Accordait quand même une grande importance à l'éducation.
Qui apportait, une très grande importance à l'éducation. Parce qu'il voulait que ses enfants réussissent bien. Et puis, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé dans les écoles privées. À l'époque, les écoles privées égalaient pensionnat. Donc, à 5 ans, tout petit bonhomme, j'étais déjà au pensionnat, entre les mains des religieuses.
Et pour vous, cela ne nécessitait pas... tout l'effort que vous aviez à y mettre, parce que ça a été difficile pour vous.
Oui, ça a été difficile pour moi. Il s'agit de... Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, des enfants, des petits-enfants. Lorsqu'on les voit, les petits bouts de 5 ans, en tout cas, moi, quand je les vois, je me dis, c'est pas possible. On peut pas séparer des enfants de cet âge-là de leurs parents. Alors, c'est une période extrêmement difficile.
Donc, de se retrouver loin de papa-maman, c'était comme une déchirure de frères et sœurs également?
Oui, puis on ne sait pas... On ne sait pas toujours. Hein, lorsqu'on est enfant, on se fait une idée de la responsabilité. On se croit responsable de ce qui se passe. dans nos petites têtes dans nos têtes de petits bonhommes. Et oui, effectivement, une grande tristesse. Une grande tristesse, mais aussi en même temps une grande docilité en ce qui me concerne. Et lorsqu'on vous dit que c'est pour ton bien et qu'un jour, ben, tu remercieras. Et en quelque part, ben, on est le résultat de ce qu'on a vécu. Y compris beaucoup, beaucoup, beaucoup notre enfance. C'est pas moi qui le dis, ce sont des faits établis. Et puis bon, est-ce que j'aurais envie d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui? Je regarde comment mes frères et sœurs ont grandi, bon, un peu différent de moi, puisque eux n'ont pas fréquenté le pensionnat. Mais bon, c'est ma vie d'aujourd'hui, et puis j'en suis fort content.
Vous avez amené votre guitare, on parle de la famille... Je pense que ce serait bien que vous puissiez, parce qu'on vient de parler beaucoup de papa,
ouais.
Mais il y a une belle chanson qui a pour titre « Ma mère
ouais. ».
Un mot sur cette chanson.
En fait, c'est une chanson, comme toutes les chansons que je chante, il faut que ces chansons-là viennent me bouleverser, il faut qu'il y ait un lien émotif direct avec les chansons qui m'interpelle. Et bon, moi, je suis interprète, c'est formidable, parce que, bon, je peux choisir parmi les chansons qui ont été écrites dans les 300 dernières années, c'est formidable. Et puis, quand j'ai entendu cette chanson-là, de ma mère, de Henri Tachan, ben, c'est venu me chercher beaucoup, parce que, bon, je vous ai beaucoup parlé de mon père, ben, je vous ai pas beaucoup parlé de ma mère. Je pense que la chanson va en parler à ma place.
Alors, je vous laisse vous installer.
Pourquoi ne m'as-tu jamais donné le câlin chaud, le gros baiser qui vient du fin fond des entrailles? Pourquoi d'un air paisible et doux n'as-tu pas demandé au loup, au croque-mitaine qu'il s'en aille? Tu sais, je me retrouve aujourd'hui à 37 ans toutes les nuits, encore privé de tes caresses. Pas demandé à voir le jour, c'est les parents qui font l'amour et les mères qui font les grossesses. Ma mère, tu ne m'as sûrement pas voulu, mais j'étais là, fragile et nu, les bras tendus comme des branches. Un enfant a besoin de tout, de feuilles mortes, de toutou, de tendresse et de dimanche. À ces dimanches auprès de toi, à mon départ pour l'internat, Dieu que la semaine était lente. J'aurais voulu que tu me serres, tout contre toi, tu sais ma mère, qu'on rit tous deux et qu'on chante. Ma mère, comme d'autres tu avais tes problèmes, ça doit pas empêcher qu'on s'aime, qu'on ait de l'amour à revendre. De l'amour, j'en avais des tonnes, bloquées au niveau du sternum, et puis des envies de me pendre. Tu sais, je me retrouve aujourd'hui devant les gens, devant la vie, recroquevillé dans ma peur. Et quand on se rencontre un instant, on parle de la pluie et du temps, avec entre nous la pudeur. Si j'ai fait cette petite chanson, c'est que ça ne tournait pas rond dans ma poitrine, c'est que je t'aime. Et le prochain jour qu'on se voit, approche-toi plus près de moi, tu sais, je ne mords pas quand même. Il nous reste si peu de temps pour rattraper les heures d'antan avant que la mort nous prenne. Pourquoi ne pas boire tous les deux là où boivent les gens heureux, ensemble à la même fontaine? Pourquoi ne pas boire tous les deux, là où boivent les gens heureux, ensemble à la même fontaine?
On vient d'entendre Claude Michaud, belle chanson d'Henri Tachan, « Ma mère ». on aurait pu parler encore longtemps de ces années d'enfance, mais j'aimerais quand même, Claude, que vous me parliez juste d'une petite anecdote comme cela. Votre père, comme vous le disiez, était très présent dans le milieu artistique.
Oui.
Il venait tous les mercredis à votre pensionnat.
Ah oui, 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 absolument.
Il venait diffuser un film, et ça, c'était assez particulier pour vous, ce moment-là.
Ouais, ben, c'est bien certain. En même temps, bon, ça peut paraître comme une chance. Et puis, bon, oui, j'étais fier de mon père, c'est bien certain. Comme il était à la télévision, et puis c'est lui qui visionnait les films. Et puis pour moi, c'est des souvenirs immenses. Quand j'étais à la maison, il visionnait les films et il déchirait une feuille de papier en petits morceaux. Et puis lorsqu'il décidait qu'il devait y avoir une pause publicitaire, ben, il mettait le petit papier dans la bobine de 16 mm. Mais bon, je reviens à votre question.
C'est le cœur meurtri que vous voyiez partir,
oui,
papa par la suite.
Ben, en fait, oui, ben, c'était aux 2 semaines. Il venait au pensionnat et puis il apportait son projecteur, haut-parleur et tout ça. Puis il s'est intégré, c'était dans une boîte. Il installait tout ça et puis on installait un grand drap blanc où y avait-il un écran. Peu importe, je me souviens pas, mais... Et puis, il venait projeter un film pour les enfants du pensionnat. Et pour moi, c'était des moments extrêmement déchirants. C'était le départ après le film. C'était le mercredi soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ouais, je pense que j'aurais préféré qu'il ne vienne pas, parce que, bon, chaque déchirure,
De voir passer
marque.
Le temps entre chacune de ces visites, c'était difficile. Ferry a peut-être chanté pour cela. Je chante pour passer le temps. On va l'écouter, si vous voulez bien.
Avec grand plaisir.
Je chante pour passer le temps, petit, qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Ses doigts se dénouent comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Léo Ferré, proposé par Claude Michaud, qui est avec nous. Claude, on n'a pas beaucoup parlé de maman, mais elle a joué un rôle important, sans aucun doute, dans ce que vous êtes devenu.
Ben, je suis devenu.
Mais la chanson que vous aviez chantée tantôt exprimait bien le sentiment qu'on peut avoir à l'égard de sa mère.
Oui, exactement. Et bon, ma mère, les gens de notre génération parlent souvent de leur père absent, mais moi, c'est plutôt une mère absente, la mienne. Une mère qui travaillait, une mère qui n'aurait sans doute pas dû avoir d'enfant, qui était possiblement pas fait pour ce genre de vie-là. Et voilà, les souvenirs que j'ai de mon enfance, avec qui on allait voir le médecin, avec qui on allait s'acheter des choses pour l'école, des vêtements, etc., etc., c'était papa, c'était pas maman. Donc, ma mère était plutôt absente.
On saute un grand bout de votre cheminement. Vous vous retrouvez, on le disait en début d'émission, avec des légendes de l'art lyrique qui vont vous enseigner.
Oui.
Louis Quilico, entre autres, qui malheureusement est disparu. Si vous me permettez, on va l'écouter.
Mm-hmm.
Dans une belle chanson napolitaine qui a pour titre La Strada nel Bosco, qui veut dire le chemin du bois. Ça a été enregistré en 1991, un album qui a pour titre Souvenir d'Italie, qui est une collection finalement de plusieurs chansons napolitaines. Donc, qui dit chanson napolitaine dit chanson légère, chanson heureuse parfois. Parfois mélancolique également, mais on retrouve toute la puissance de cette voix de baryton. Il y aurait tellement à dire concernant Louis Quilico. Vous en gardez quoi, vous, comme souvenir?
Ah, c'était un grand pédagogue et un homme extrêmement généreux. M. Quilico demeurait à Toronto. J'étudiais à l'Université McGill à l'époque. Et puis, lorsqu'il venait à Montréal, moi, j'habitais Parc Extension. J'avais un petit appartement de jeune homme qui débute dans la vie. Et puis, il faisait ni un ni deux. Il arrivait à Montréal, il descendait de l'avion, il prenait un taxi, puis il venait m'enseigner chez moi. Et puis, c'est un homme qui aimait profondément ses élèves, qui m'a transmis beaucoup, qui m'a donné des pistes pour devenir un peu ce que je suis devenu aujourd'hui au niveau vocal. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, ça m'a fait un grand chagrin lorsqu'il est parti.
Prime stelle in cielo brillano già, tra i biancospini il vento mormorò e va, sembra un incanto il bosco sotto la luna, fa voglia appassionate, narra per te. Conoscelo tu. Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non corre mai più. Laggiù tra gli alberi, intracciato coi rami in fior, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Sogna il tuo cuore.
C'était Louis Quillico, La Strada del Bosco. Louis Quillico qui est décédé le 15 juillet 2000 à l'âge de 75 ans. Mm-hmm. C'est probablement le plus grand interprète de Rigoletto.
Absolument. Je pense qu'au-dessus de 500 fois, il a joué au Metropolitan Opera à New York.
Au Covent Garden, l'Opéra de Paris, le Stade
Sofer de Vienne. Il était bouleversant dans ce rôle-là.
Oui, et on l'avait d'ailleurs... mes compagnons de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction honorifique conférée par le gouvernement du Canada. Mm-hmm. Il a reçu des honneurs un peu partout. Mais je pense que tout le monde lyrique, parce qu'il a chanté avec les plus grands aussi, avec Luciano Pavarotti, ah, Placido Domingo, absolument. John Vickers, un autre grand Canadien.
John Sutherland.
Tout à fait, Renata oui. Tebaldi, etc. Oui. Mais le rôle de Rigoletto lui est resté collé à la peau. C'était le plus grand Rigoletto de l'opéra.
Mais c'est tellement un beau rôle, le père qui est déchiré par ce qui arrive à sa fille. C'est très, très, très touchant. Puis bon, le dénouement, ben, on le sait, on ne peut plus dramatique.
Oui, mais à peu près tous les opéras se terminent de manière dramatique. L'amante qui quitte,
on se comprend.
Le mari jaloux qui meurt assassiné par l'amant, etc., etc. Claude, vous avez puisé aussi au sein de la belle littérature. Quand on parle de Victor Hugo, on parle aussi du plus grand dans son domaine. Vous allez nous proposer un beau texte qui est amusant à la fois, qui a pour titre...
Le mot, tout simplement.
Et pourquoi? Simplement parce qu'on va découvrir... Il y a un côté vraiment badin dans ce texte, mais c'est tellement bien écrit.
Ben, dans un premier temps, je dirais que Victor Hugo avait demandé, je me demande si c'était pas testamentaire, que jamais on ne mette ces mots en chanson. Pour une raison que j'ignore, le père de Clémence Desrochers fait la même chose d'ailleurs. Alfred Desrochers, oui, effectivement, a demandé que jamais aucun de ses textes ne soit, soit mis en chanson. On ne sait pas pourquoi, alors voilà, je le dis tout simplement dans un spectacle pour titre Poésie sans frontières. Alors, et puis... Un texte, c'est comme une chanson, hein. Même comme un tableau. On se retrouve devant un tableau, on est émerveillé, on est transporté, il y a une gamme d'émotions qui s'installe ou qui ne s'installe pas. Et c'est la même chose pour n'importe quel texte. On écoute un texte, on le regarde, on l'écoute, et puis on est sous le charme. Et lorsque j'ai entendu ce texte-là, ben, moi, ça m'a charmé. Et j'ai eu envie de le présenter aux spectateurs dans mon spectacle.
Alors, je vous laisse le mot.
Le mot de Victor Hugo. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez, que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin, il prendrait les ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc., passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va, tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, se dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Thank you.
Thank you.